Est-ce que tout le monde est prêt?
Ouais.
Ouais. Alors, à 0, 3, 2, 1, 0. Bonjour, bonsoir. Vous écoutez un podcast trans, épisode 23. 23 pour 2023. Nous, on enregistre le 13 novembre 2023 et c'est pas un vendredi 13. Et on va voir à quel point vous êtes superstitieux autour de la table. Alors moi c'est Jenna. Qui est-ce qu'il y a autour de la table avec moi? Vas-y
Moi,
Louis.
c'est. Ah bon. Pardon. Salut, moi, c'est Louis. Je suis un peu superstitieux, mais pas au point de me dire que le fait qu'on enregistre un 13 soit de mauvais augure.
Cool, très bien.
Pardon, Charlie, tu allais dire.
J'allais dire, moi, je suis pas superstitieux de tous les trucs chat noir, parapluie dans la maison et tout ça. Par contre, je touche toujours mon nez à 22h22. Et c'est très important.
C'est parce que t'es Pinocchio et t'es un vrai petit garçon et que tu dois toucher du bois?
Ça doit avoir avec tout ça. Bah, Mickey, du coup.
Eh ben, Mieke, en bonne vulcaine, elle dit que la superstition est complètement illogique et que la seule heure à laquelle je sois attentive, c'est 13h12 en général, sinon le reste, ça va. Donc voilà, c'est à peu près tout. Bonsoir.
Bonsoir. Est-ce que vous avez des observations, des news importantes à communiquer avant qu'on commence les sujets du jour?
Oui, le 23, c'est la Creuse.
Ah oui, ça c'est crucial, effectivement.
C'est l'épisode de la Creuse, c'est vrai. Tu avais fait la réflexion en
Oui,
réunion.
tout à fait. Et je ferai un sujet sur la Creuse un jour, mais j'ai pas eu le droit de le faire aujourd'hui parce qu'apparemment j'avais un sujet plus important à faire. Donc, et bah.
Oui, je pense que depuis l'épisode 22, tout le monde l'attend avec impatience.
Depuis l'épisode 21.
Hein, tu crois? Ouais,
Hein?
j'ai plus. On
Attends,
n'arrête pas
oui!
de, non, on n'arrête pas de retarder des épisodes à l'épisode suivant. Moi, j'ai une petite annonce,
Non.
on va dire presse, qui est que j'ai participé à une série d'articles sur un magazine qui s'appelle Les Jours, lesjours.fr. Sur la transidentité et sur la façon dont nous sommes particulièrement bien traités par l'État en France. Et voilà, ça m'a rendu assez fière parce que c'est fait par un journaliste trans, c'est fait avec un photographe trans, et c'est un journal qui n'est pas particulièrement militant au départ, mais là d'un coup c'est vraiment un sujet que j'ai ressenti bien fait et respectueux, et qui rentre vraiment dans le détail sur toute une série d'articles. Donc je suggère d'aller voir. Bon, je crois que c'est derrière un paywall, hein, donc il est possible que. Alors, le bon plan, c'est que si vous voulez pas payer, mais que vous vous mettez sur la newsletter, pour l'instant, les sujets précédents, ils ont été envoyés gratuitement dans la newsletter. Donc, il y a moyen de. Faut le faire vite. Et puisque je suis dans la frime journalistique, j'avais aussi participé à un très bel et très long article signé Talma Desta pour Mediapart. sur la PMA des personnes trans. Autant dire que j'étais investie. Et comme les très bons journalistes, il m'a proposé de relire mes propos avant de les publier. Et le mail est parti dans mes spams et je l'ai pas vu. Et du coup, dans le doute, il a viré toutes mes citations. Et je suis pas dans l'article, et l'article, il est moitié plus court que ce qu'il aurait dû être. Je suis très triste. Mais l'article, il est quand même vachement bien. Hein. Mais voilà.
Non. Bon, c'est pas une news qui va concerner beaucoup de gens, mais enfin que les gens peuvent pas checker, mais je reviens d'un week-end d'arbitrage où j'ai arbitré la nationale 1 zone 2 du roller derby. Alors, ça paraît très flou comme ça, mais comment ça marche les championnats de roller derby en France? Globalement, il y a trois niveaux, National 2 étant le plus bas, National 1 et ensuite élite, et après c'est des niveaux européens et tout ça. Donc, j'étais globalement le niveau un peu élevé quand même, mais du coup c'était cool mais intense. Je suis revenu avec plus d'énergie et un blocage dans le dos. Mais maintenant que j'ai fini d'arbitrer, je peux dire que Montpellier a gagné les deux matchs qu'elles ont joués. Et du coup, on est trop contents parce qu'elles sont plutôt bien placées dans le classement pour l'instant. Donc on attend la deuxième étape, mais c'est trop bien.
Est-ce que c'est le signe
Et
d'une bonne
après.
journée quand tu reviens tout cassé comme ça, même en arbitrant?
Ben, en fait, c'est toujours le truc de à chaque fois j'y vais et genre sur le moment je suis en mode ça va être trop bien parce que enfin je trouve que c'est enfin moi je suis spécifiquement quand j'arbitre je suis à la table de score j'arbitre pas en patin encore j'ai pas encore le niveau pour ça pas au niveau de national 1 en tout cas mais du coup je suis à la table de score et du coup j'ai une bonne vue du jeu en fait et c'est super chouette pour ça. Et puis c'est juste que du coup bah aussi je suis défrayé quoi genre le club paye l'aller-retour parce qu'il y a un quota d'arbitres à fournir, on est logé chez les gens qui hébergent enfin chez des joueuses de qui hébergent l'événement. Donc comme je vous disais tout à l'heure en plus on a été bien logé parce que la personne chez qui on était avait deux chats et un chien qui étaient très friendly et du coup je me suis littéralement dormi un soir avec des ronrons sur le haut sur moi et la pluie qui passait enfin sur le Velux donc ça allait mais c'est juste que ça prend beaucoup d'énergie d'arbitrer. Il se passe plein de trucs dans un match de roller derby. Regardez des matchs de roller derby, vous voyez tout ce qui se passe, il se passe beaucoup de choses. Donc voilà, et je pense que je peux dire que du coup je vais jouer les championnats de National 2 de ma zone aussi. Et du coup ça va être la première fois que je vais jouer pour de vrai parce que l'année dernière j'étais dans les Fresh Meats. Donc les Fresh Meats c'est les viandes fraîches, littéralement. Quand tu commences tout juste le roller derby, que t'apprends à patiner, que t'as pas encore beaucoup fait de contact et tout ça, donc voilà.
Là, c'est déjà sûr ou tu montres que t'es pas superstitieux?
Ah non, c'est sûr,
Ok.
j'ai confirmation, c'est juste que en fait, j'ai pas j'ai enfin, au moment où j'enregistre cet épisode, j'ai pas le droit de le dire. Au moment où l'épisode va sortir, normalement, j'aurai le droit de le dire parce que normalement, on a confirmation d'écrou avant la fin de la semaine.
D'accord.
Donc à moins que tu sortes l'épisode dans la de, à la, avant la fin de la semaine.
Challenge.
Et que genre des gens du roller derby l'écoutent. Enfin les gens du roller du club de Montpellier du roller derby ou de la zone écoute, ça devrait aller.
Là, on est en train de le jinxer très fort, effectivement, mais non, mais on compte sur toi pour faire notre pub auprès de tous tes cercles sociaux. Oui.
Moi, j'ai rien de neuf. Absolument rien de neuf. Depuis la dernière fois. Enfin, je veux dire, il y a plein de trucs chouettes côté perso, quoi, mais c'est tout. C'est très très calme. Il y a bien une ou deux formations qui viennent par-ci par-là, quoi, mais c'est sur mon agenda comme le reste du boulot, quoi. Il n'y a rien de spécial où je puisse me dire, putain, là, il y a un truc énorme qui arrive. En tout cas, il n'y a pas de truc énorme dont j'ai la confirmation et que je pourrais parler publiquement.
Très bien, on fait des teasers, c'est bien. Moi, je pense que j'ai un truc énorme et t'as mentionné des trucs extrêmement perso, hein, ça ne touche que moi, mais
J'ai
je
failli
suis
lancer
en
un
train
titre,
de.
mais du coup,
Pardon?
j'ai failli lancer un titre à la volée, mais
Vas-y.
oui, non, j'ai un truc énorme, titre. Bon,
Ah oui, c'est
si
vrai que
oui,
t'as pas
oh, j'ai fait une blague
répondu.
bouffe, Gina. La
J'avais
suis un petit peu.
compris. Écoute, c'est l'épisode pour ça. C'est bien.
Je
Je te remercie, Louis, de m'empêcher de les faire moi-même. Dans le moment super mignon que j'abordais, j'étais en train de changer mon bébé. Et je pense qu'il ménage ses effets, c'est-à-dire il savait exactement quel effet ça allait avoir. D'habitude, il gigote énormément, mais là, il est resté très calme, très sage sur le dos. Et il m'a regardé. Il a posé sa main sur sa poitrine et les yeux dans les yeux. Il a prononcé des syllabes qu'on n'avait jamais entendues parce que c'est des syllabes nasales, c'est dur. Enfin, il m'a regardé, il a fait maman. Bim! Et voilà,
Pardon.
et il est parfait.
Oh. Ah là
Il
là.
m'a validé.
Lourd.
Ah.
Bravo bébé transfriendly.
Je propose qu'on attaque.
Oui.
Alors,
Attaque
on
avec
nous dit
Wolverine. C'est
que
parti.
Charlie a un sujet.
Oui. Bah, il paraît, en tout cas, il paraît que ça a été teasé dans les épisodes précédents que je n'écoute toujours pas. D'ailleurs, on le rappelle. Hein.
Ça aussi, ça a été mentionné.
Ah. Bah, je ne le saurais pas, parce que je ne sais pas ne pas me faire de mal. Tout va bien. Oui, donc apparemment j'ai un sujet. C'est entièrement ma faute. Hein. Je l'ai conjuré sur moi-même ce sujet parce que je suis assez fan de Marvel depuis longtemps. Globalement, je regarde tous les films qui passent, sauf en ce moment, car on boycotte Disney. Et du coup, voilà. Il y a des films que j'avais jamais vus, qui sont les films des X-Men. Alors que j'ai vu les Wolverine, machin, tout ça. Et donc, Louis est venu chez moi, un beau jour, et m'a dit, Charlie, c'est inadmissible, il faut que tu regardes les X-Men. On va commencer par un classique, et donc on a commencé par ce film dont j'ai déjà oublié le nom, mais qui est un des X-Men que c'est logique de le regarder dans le bon ordre, quoi.
C'est le premier de la trilogie des X-Men, genre vraiment il y a la première trilogie, genre littéralement le premier de la première trilogie X-Men lancée par Marvel.
Quand c'était voilà. Bryan Singer qui gérait.
Voilà, donc celui-ci. Et maintenant, je vais devoir faire la description de film à l'oral parce que vous n'avez pas le film sous les yeux, parce que ce n'est pas, ce n'est pas une vidéo, c'est un podcast. Donc, contexte. On est dans ce premier film-là, on découvre donc le personnage de Wolverine avec ses pouvoirs et on découvre qu'il a notamment un pouvoir de globalement de régénération. Qui fait que dès qu'il est blessé, ça le tue pas, et ses blessures se résorbent seules très rapidement. Enfin, plus ou moins rapidement selon la gravité, bref, machin. Mais globalement, très rapidement. Donc, ce qui lui permet de se prendre des balles et de survivre, de se faire transpercer et de survivre, enfin, voilà, plein de trucs sympathiques. Mais ce qui lui permet également de s'infliger à lui-même un certain nombre de douleurs et d'y prendre du plaisir, hein, voilà. Je pense qu'on peut dire les choses comme ça. Donc, description de scène maintenant. Il y a une scène très spécifique où Wolverine rentre dans l'espèce de cerveau de
Cérébro.
Voilà, dans Cérébro, le truc de Xavier, là, qui est une grosse bulle en métal. Donc, Logan rentre là-dedans et il a son cigare à la bouche parce que dans tout le premier film, on voit Logan qui fume des cigares. Pourquoi ? Je ne sais pas, mais c'est un trait de personnalité, visiblement, donc voilà. Et donc, il fume son cigare quand il rentre dans le truc, sauf que Xavier, il est en mode « Non, en fait, tu fumes pas de cigare parce que ça pue la mort. » Il a raison. Et, et donc, il lui dit « En fait, tu éteins ton cigare quand tu rentres dans mon cerveau, s'il te plaît. » Et du coup, Logan, faisant la prochaine chose logique, finalement, ne cherche pas à écraser son cigare sur un mur, sur le sol ou sur la semelle de sa chaussure, mais écrase le cigare dans sa main, dans la paume de sa main. Et il a ensuite une expression faciale. En fait, je peux pas vous la décrire. Il a l'expression faciale.
Tu vas devoir mimer.
Dont vous pouvez imaginer que fait Wolverine quand il jouit. Voilà. J'ai pas d'autre explication à cette scène. Il y a vraiment le bruit du cigare qui fait dans sa main, et il y a lui qui fait la tête, ou si je dois vous faire le bruit de la tête, parce qu'il n'y a pas de bruit dans le film.
Mais
si je dois
vous faire le bruit de la tête. Il soupire pas, il n'y a pas de. Okay.
Non, mais s'il faisait un bruit, ça serait un truc du genre. Voilà. J'espère que c'était audio pour vous, j'espère que vous avez kiffé.
Non, parce que j'imagine la voix de Logan, et du coup, j'imaginais plus un truc genre.
Non, parce que justement, c'est vraiment une espèce. Tu sens qu'il a un soupir, genre de soulagement et de plaisir, et de genre, oh, I just come.
Genre. Qui est super. Être un truc de, ah, ça fait un peu mal quand même, mais.
Est-ce qu'on a d'autres exemples du côté kinky de Logan?
Non. Enfin, pas dans ce film-là en tout cas, parce que c'est le seul que j'ai vu du coup à l'heure actuelle. Je vois que le gars, je vois que Mikke, ah, j'en ai vu deux, bon peut-être, mais tu vois,
Oui, parce que du coup, la scène que je décris, c'est au début du
ah.
deuxième, parce qu'on du coup, on a regardé le premier et le deuxième à la
Ils sont
suite.
déjà mélangés dans sa tête.
Dans ma tête, c'est un seul truc. Et je vois que Mikke lève la main, donc il devrait y avoir d'autres exemples auxquels je ne pense pas, mais pour moi, non. Et voilà.
Alors, je voulais citer en fait, parce que la scène que tu décris, il faut savoir que le professeur Xavier ne lui dit pas éteins ton cigare simplement. Il lui dit si tu ne le fais pas, je vais te convaincre que tu es une petite fille. Donc il y a quand même une menace de force femme de la part de Xavier, voilà, qu'il ne faut pas oublier. Donc je pense aussi que le professeur Xavier a des kinks un peu particuliers. Sauf que lui, il peut, si tu veux, le côté hypno, fétiche, tout ça, en fait, avec Charles Xavier, ça marche du premier coup. Voilà. Je crois qu'il le menace même que Jean Grey lui fasse des couettes, tu vois.
Mais alors,
Voilà.
attends.
Oui, il y a ce truc
Mais c'est. Mais bah,
qui lui fait la
est-ce que.
clinique.
Parce que. Donc, Charlie, tu as vu deux films d'X-Men. À ma connaissance, il y en a au moins deux, trois de plus. Est-ce que tu comptes voir les suivants?
Je sais pas. J'aimerais bien. Il y en a un que j'aimerais bien voir. Bah, je pense que c'est le troisième.
Ouais.
Donc peut-être que je vais finir cette trilogie-là.
D'accord.
Mais ceux d'après qui étaient pas du coup, qui sont pas dans la suite logique. Enfin, il y en a un, c'est un préquel, je crois. Et bah, enfin, ça me chauffe pas tant que ça. Et après, il
Ouais.
y a eu du coup un
Il y
remake,
a
un peu.
Days of Future Past qui est un espèce
Ouais, ça a
de
l'air pas
genre
terrible,
truc
ça.
ou mist ouais ou de grand n'importe quoi. Après il y a eu
J'ai l'impression
des
que c'est des
X-Men qui sont
flashbacks
apparus
et
dans le.
que finalement le flashback devient un reboot en fait, mais
Bah c'est genre Mystique et Logan qui retournent dans le passé pour je sais plus quelle raison.
Ouais.
Bref, il y a, et il y a du coup après il y a eu les deux films, il y a eu oui les deux films Deadpool et dans le deuxième film Deadpool t'as des X-Men dedans mais c'est pas les mêmes X-Men.
Oui,
Enfin mais du coup c'est pas
pour
des
moi
X-Men
ça,
qu'on a déjà
ouais,
vus.
ça compte. C'est genre c'est les X-Men pour lesquels ils ont eu le droit de payer les droits et du coup c'est les X-Men de deuxième catégorie. C'est comme ça que c'est présenté dans le film Deadpool.
Oui.
Ok. Bah, enfin, oui, donc du coup, peut-être que je verrai la fin de la trilogie à un moment donné. Mais
Ok.
dans tous
C'est
les
pour
cas,
savoir si je peux spoiler quelque chose, un élément de la vie de Logan.
Oui,
Parce
en fait, je peux
que.
parce que j'ai. En fait,
Ah oui, parce qu'il y a le biopic sur
parce que
le biopic, je sais
j'ai
pas si.
vu tous les films de Logan. Enfin, j'ai vu Logan, en fait.
D'accord, très
Genre.
bien. Donc c'est pas un spoil pour toi.
Non.
Et a priori, à prescription, il est sorti depuis assez longtemps. Et c'est aussi une information qui existe dans les bandes dessinées. Dans le film Logan, pour la faire très très courte, hein, Logan, qui est un, on va dire, un gros mec bourru, musclé, baraque, un peu bien tassé, tu vois, avec des bonnes grosses rouflaquettes et des poils partout, qui est représenté comme un camionneur dès le début dès le début des films, adopte une petite fille. Il croise le chemin d'une petite fille et il l'adopte. Et on lui explique, il comprend, je ne sais plus comment c'est révélé dans le film, que cette petite fille est un clone. Cette petite fille est un clone de lui. Donc, cette petite fille a le même patrimoine génétique que Logan. Donc, Logan a un patrimoine génétique XX. Patrimoine génétique qui fait de Logan un mec trans, canoniquement. Ce qui veut dire que, si on revient à la scène du début du film que Charlie commentait tout à l'heure, quand Xavier le menace de le convaincre d'être une petite fille, il a des informations de l'intérieur de la tête de Logan, il le menace de le faire détransitionner.
C'est horrible.
Oh, c'est salaud.
C'est
Alors là, tout de suite, le
horrible. Ouais, tout
professeur
de suite, c'est
Xavier. Ouais, mais il le fait
horrible.
avec humour. Mais et peut-être que Logan, la façon dont il répond, c'est de s'écraser un
Vraiment, la
cigare dans
réaction
la
de
main.
Charlie à moi, c'est en mode, comment
La
ça? Pas drôle, en
réaction de
fait.
Logan de s'écraser un cigare dans la main, c'est clairement parce que ça lui fait plaisir, mais c'est en même temps histoire de passer ses nerfs sur autre chose que sur la nuque de Xavier, quoi.
Oui, il y a déjà quelque chose sur la nuque de Xavier en plus.
Ouais.
Oui, il a mis ses il met son truc qu'il met dans sa
Mais
main.
en tout
Bref,
cas,
mais ok,
ça fait de
j'y avais
Logan
pensé.
un personnage canoniquement trans.
Et
Et
si je me trompe pas, il y en a d'autres de ce que vous m'avez dit la dernière fois.
Alors là,
Oui,
je laisserai Mieke dire, mais sur le fait que Logan est trans, alors que Logan est vraiment un archétype masculin, je trouve ça assez chouette en termes de représentation, en fait.
on peut être trans et viril, hein. Regarde Logan, regarde moi, enfin, dire, c'est...
Oui, mais en dehors de vous deux, comme exemple viril et velu, on n'en a pas tant que ça, quoi.
C'est vrai. Bah ouais, hein. Ça manque. Il y en a juste, il y en a juste 2150 sur Instagram, mais à part ça...
C'est ça, j'en veux dire,
moi,
j'en connais.
En vrai, enfin, j'en croise plein.
Mais oui.
J'ai vrai...
Je parle en film.
Ah, en film, oui.
Ah, oui. Oui, représentation média, quoi.
Enfin, ah oui, non, parce que déjà, en film, il n'y a pas de mec trans pour commencer, et donc...
Ouais, c'est ça.
Si en plus, et puis les mecs trans qui sont dans les films récemment, c'était plus joué, plutôt joué par, par des meufs, quoi.
C'est moi, quand je repense au petit auteur que j'ai croisé en septembre là, sur le salon du livre...
Il y avait Laurier.
Et, alors, il y avait Laurier, mais c'est pas, c'est, je parle pas de Laurier pour le coup, je parle d'un autre qui était... Non, bah Laurier, c'est Laurier. Mais il y a un petit auteur transmasque qui est passé, là.
Oh, le transcripteur Pardon, je vais peut-être essayer d'arrêter d'outer ta vie privée.
Vraiment, genre, c'est juste pour name dropper. Mais non, c'est
suffisant. Je le connaissais. Voilà. Non, je ne vais pas faire de name dropping non plus. S'il écoute le podcast, peut-être qu'il se reconnaîtra. Mais, pardon.
Les DM que sont ouverts.
Pardon, Charlie, non, j'ai pas, on a pas
entendu. Non, je disais, Nico ne veut pas donner de nom parce que la suite de la phrase, c'est fou. Donc, voilà. Faut...
C'est ça.
Peut-être que donner publiquement un nom, quoi.
C'est ça. Après, je soupire. Je note aussi que tout à l'heure, donc, nous avons entendu le soupir de Charlie quand il jouit, visiblement. Voilà.
Non.
C'était tout mignon.
C'était vraiment Wolverine. C'était...
Ah, d'accord.
Mais tu sais, Wolverine et Charlie, dans une relation, on les confond facilement quand même. Hein.
Oui, je pense que c'est les épaules.
Oui. La carrure. Bah, il y en a un des deux qui est un triathlète, quoi.
C'est vrai, c'est pas le
je crois que Mika avait des références d'autres X-Men qui étaient des personnages trans.
Oui, mais déjà rien que dans ce film en fait, parce que en gros enfin si on repart un peu sur les films, déjà je voudrais préciser que genre la réaction de Charlie était priceless sur ce moment-là aussi, et que c'est pour ça qu'on en a que genre on a qu'il y a un sujet là-dessus, c'est parce que genre Charlie a été genre vraiment zéro réaction de tous les deux films, et à ce moment-là précisément il a crié, il s'est cogné contre sa table basse, il a mis pause, il a relancé la scène et il m'a regardé, il m'a fait il kiffe là. Voilà.
Mais vous me connaissez, vous savez que je réagis pas facilement. Jenna, tu as dit tout à l'heure, genre c'est pas facile de me faire réagir, donc ça voulait dire quelque chose.
Voilà, c'est incroyable.
Mais vous pouvez trouver la scène sur YouTube, hein, je vous encourage, n'hésitez pas à taper Wolverine X cigare, et puis vous trouverez toutes les scènes où il fume un cigare dans les premiers films, plus celle où il s'écrase un cigare sur la main. Ouais, c'est cadeau.
Mais du coup, rien que dans ce film-là, en fait, parce que ça, on a une meuf trans, en fait, parce que donc toute la métaphore du premier film est sur la Shoah, mais du coup toute la métaphore du deuxième film est sur les personnes LGBT, en fait, avec du coup la fameuse scène de coming out de est-ce que tu as essayé de ne pas être un mutant, mais aussi il y a le méchant de ce film, dont j'oublie tout le temps le nom parce qu'en fait c'est le mec qui joue Agamemnon dans 3, le film, et du coup dans ma tête l'acteur à chaque fois que je vois je fais c'est Agamemnon. Bref,
c'est Stryker.
Merci.
Le nom du personnage
qui est un nom d'acteur turbo,
coup...
non?
Probablement.
Certainement.
Ce sera très bon d'acteur porno.
on va dire que je n'ai pas cette information là non plus. Du coup, j'ai réussi à faire une
description
où Charlie est en train de chercher
une description, c'est ça. Charlie est en train de rire.
Ouais, mais parce que je l'arrête, c'est terrible.
Ah, je suis rassurée.
Mais attends, mais je.
Tu veux nous parler de Jeff, Charlie?
Pour suivre. Donc, oui, tu es le méchant de ce film.
Le méchant de ce film. En gros, a un enfant qui est mutant aussi et qui littéralement lobotomise pour pouvoir utiliser ses pouvoirs parce qu'il a les mêmes pouvoirs que Charles Xavier. Et du coup, pour ça, en fait, il l'utilise pour contrôler Charles Xavier globalement. Il utilise son enfant pour contrôler Charles Xavier. Et du coup, l'enfant, quand on le voit, apparaît être un homme, mais quand son enfant se représente dans la tête de Charles Xavier, il se représente en tant que petite fille. Et du coup, c'est clairement une meuf trans, en fait. Voilà. Et du coup, ouais. Donc, il y a déjà au moins une meuf trans. Enfin, t'as un truc sur le fait que son. Enfin, sur les abus faits par les parents qui acceptent pas leurs enfants LGBT, quoi.
Ok. Bon, elle n'est pas dans la meilleure position. Enfin, c'est pas Logan, quoi. Ouais.
Oui, non, clairement pas.
Ok. Est-ce qu'il y a des personnages, d'autres personnages qui ont des pouvoirs et qui seraient trans?
Bah, moi, je sais que le personnage qui m'a toujours scotché, et ce depuis la série animée qui passait dans les années 90, donc que les jeunes personnes qui nous écoutent ne connaissent peut-être pas. Moi, il y avait un personnage que j'adorais, qui était une meuf toute bleue avec les cheveux orange et qui pouvait changer d'apparence complètement. Et moi, je trouvais ça génial. Et je ne savais pas encore complètement pourquoi je trouvais ça génial, mais c'était mon personnage préféré. Je m'en foutais voilà, de tornades qui balançaient des éclairs ou de la régénération de Wolverine.
Je me demande si ça veut pas dire qu'il peut pas se raser aussi.
Bah. Ouais, mais alors après, tu peux partir sur tellement de théories
Oui,
avec
tout à
l'idée de
fait.
la régénération cellulaire de Logan que
Mais du
c'est.
coup, est-ce que ça voudrait dire qu'il aurait pas pu faire sa mamec?
Si on a pu faire toutes les opérations qu'on voulait sur Logan, y compris remplacer tout
Ah
son
oui, c'est
squelette.
oui. C'est bon. Oui, non, il a pu faire ça. Oui, c'est bon, vous l'avez. Mais du coup, oui, pardon, on repart sur Mystique,
Oui.
Mickey.
Et c'était pas juste
Mais
parce
oui.
qu'elle était tout le temps à poil, c'était vraiment pour les pour
Mais elle
les.
n'était pas à poil déjà.
Elle
Voilà,
est à écailles.
Oui,
voilà,
pardon.
elle a une esthétique absolument magnifique.
Oui.
D'ailleurs, j'ai beaucoup aimé comme elle a été interprétée par Jennifer Lawrence dans les films plus récents.
D'accord.
Voilà, parce qu'il y a eu plusieurs actrices dans les films live
C'était
et
Rebecca Romijn-Stamos dans les précédents. Oui.
ouais, qui était très bien aussi. Mais j'avoue que j'aime beaucoup Jennifer Lawrence et Jennifer Lawrence en Raven, enfin en Mystique en français. J'étais là, oh, elle est trop belle.
Oui.
Mais après, ouais, non, clairement, je pense que ça en disait quand même assez long sur. La meuf trans qui arrivait pas encore trop bien à cerner qui elle était, que ce soit mon personnage préféré. Voilà. Dans le genre, moi, et je sais pas pourquoi, mais j'ai toujours codé ce personnage-là comme étant un personnage transmasque, qui a Diablo. Voilà.
Pourquoi
Je
transmasque?
l'aime tellement! Alors, dans les dessins animés, il a une vibe transmasque. Je sais pas comment te dire autrement que genre, il a une vibe transmasque. Comme genre, dans le live action One Piece, Kobe, genre l'acteur qu'ils ont pris, il a trop une vibe transmasque. Mais genre, bref.
Okay. Et tu sais, c'est ce côté un peu, tu croises quelqu'un et tu te dis le un peu le transdard qu'on a, tu sais, et ben voilà.
Si je peux rajouter un dernier
C'est
truc sur
ça se trouve,
Mystique.
c'est complètement claqué, hein, mais moi, c'est vraiment cette perception. Quand j'ai vu Diablo,
Bah, Mystique, elle doit être gender fluide en fait. Enfin, je dirais, elle a une expression interne qui est un corps féminin. Mais il y a un film entier qui passe dans la peau du sénateur.
Ouais, c'est ça, c'est ce que j'allais dire. En fait, tout le deuxième film, en fait, elle se fait passer pour le sénateur qui est mort dans le premier film. Et du coup, enfin, genre, apparemment, elle a zéro souci à. Bon, après, enfin, il y a des gens qui font du drag, donc peut-être que, genre, c'est du drag pour elle, tu vois, mais il y a clairement un côté très gender fluide aussi dans la manière dont, en tout cas, elle utilise ses pouvoirs.
Ça fait penser au. Il y a un petit garçon qui a le même pouvoir que Mystique dans le dessin animé Encanto de Disney. Enfin, désolé pour Disney, mais
Oui, je l'ai
elle est
vu
très
pour la
clairement gender
première fois
fluide
hier
aussi. Il a
soir.
aucun problème à incarner les hommes et les femmes de sa famille.
Camilio.
Je me suis fait la réflexion.
Qu'est-ce que tu dis,
Oui,
Charlie?
c'est Camilio.
Oui, c'est Camilio. Oui, tout à fait.
J'ai
Je me
vu le
souviens plus
film
du nom.
127 fois.
Est-ce que quand tu as un personnage justement comme Raven qui peut vraiment changer d'apparence à volonté, je pense que en fait, tu vois, quand bien même elle est, finalement elle s'identifierait juste au féminin, tu t'en fous, tu peux camper absolument n'importe quel personnage et revenir à qui tu es vraiment. Donc après c'est le...
Ouais, c'est pour ça que je parlais de drague, en fait, parce que genre je me dis, ça se trouve, c'est comme ça qu'elle le voit aussi.
C'est un rêve, quoi. C'est aussi le cosplay parfait.
C'est du théâtre.
Ouais.
Moi, ce serait le rêve juste pour passer, genre switcher d'un côté à l'autre constamment, en fait.
Moi, je pense que ça ne satisferait pas pleinement de savoir que c'est pas mon corps. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais
est-ce que ça devient pas ton corps au moment où tu le... Parce que c'est pas une illusion dans l'esprit des gens, c'est vraiment physique.
Oui, c'est vraiment physique, mais ça reste que c'est pas moi. Mm-hmm. Ça reste que je peux performer un autre truc pour avoir le corps que j'ai envie d'avoir, pour avoir... Ouais. Enfin, tu vois, c'est genre, je peux pas être moi-même et être dans un corps que j'aime bien. Je suis obligé de passer par une tierce personne et de ne jamais être entièrement moi-même.
Mais c'est peut-être pas un hasard que ce personnage soit rarement extrêmement gentil dans aucune de ses de ses apparitions.
Je pense que il y a pour Camillo, je sais pas. Par contre, pour Mystique, le truc qu'on oublie, c'est qu'elle choisit. Enfin, en gros, elle peut prendre l'apparence d'autres gens, mais c'est pas juste qu'elle peut prendre l'apparence d'autres gens, c'est qu'elle peut prendre n'importe quelle apparence qu'elle a envie, qui soit de plus ou moins humanoïde, parce que l'apparence qu'elle montre, c'est elle qui l'a choisie. Mm-hmm. C'est l'apparence qu'elle choisit de prendre.
Elle n'est pas obligée de se baser sur un truc réel ?
Non. Okay. Non. Et alors, c'est peut-être pas une info qu'on a dans les deux films qu'on a vus, mais c'est une info qu'elle donne à un moment donné. L'apparence qu'elle a bleue comme ça, c'est une apparence qu'elle choisit d'avoir. Ouais. Et que du coup, en fait, elle. Enfin, elle peut. Dans l'hypothèse où tu as ce pouvoir-là, c'est que tu choisis ton. Enfin, tu choisis. T'as ton corps, tu peux le modifier comme tu as envie. Mais t'as pas forcément besoin de passer par le corps des autres, en fait.
Mais c'est dans X-Men First Class que tu as cette scène entre elle et Magneto où il lui dit qu'il veut voir la vraie Mystique et où finalement elle passe par deux formes, deux apparences féminines et puis elle revient finalement à la forme bleue. Voilà, ça a donné un template de mime d'ailleurs. Termine en disant voilà, c'est parfait, effectivement, quoi. C'est effectivement cette apparence là, c'est la sienne, c'est elle.
Mike, je crois que tu as un pun et une transition à faire.
Bon, une transition, ça fait un moment qu'elle est entamée quand même. Ça va,
hein. On va la faire à chaque fois.
Écoute, hein, c'est la tradition, c'est important. On est très conservateuriste ici, donc c'est important.
Certainement.
La vanne sur... Voilà. Oui, je disais que du coup, quelque part, on pouvait dire que moi-même, j'étais un ex-man, non ? C'est ça.
Oui, nous sommes des ex-man.
Faudrait des roulements de tambour.
J'avais oublié la blague entre la dernière réunion et aujourd'hui, donc...
Mais elle ne te fait toujours pas sourire, donc...
Mais si, un grand sourire, là,
carrément. Mais enfin...
C'est mieux comme ça.
Non, mais tu sais, mon amour propre n'a vu d'autre. Il n'y a pas de problème, Charlie, c'est bon.
Bah vas-y.
Du coup, Mika, c'est à toi.
Comment ça, c'est à moi ?
Mais quand on parlait de faire une transition, c'était vers ton sujet.
Ah d'accord, moi je pensais que j'arrivais à la fin, tu vois, j'ai très bien suivi ce qu'on dit. Non, mais voilà, donc vous noterez que c'est la prof qui suit quand même le moins bien. Shame on me. Oui, alors, vu que maintenant on est bien chaude et chaud, moi je vais vous parler de sexe, en fait. Voilà. Mais je vais pas parler de... Donc, non, hein, tout de suite, calmez-vous. Moi, je vais pas vous parler de sexe en mode truc kinky, pas du tout. Vous me connaissez mal si vous pensez ça. Mm-hmm. Je vais vous parler du sexe, mais du sexe dans la nature. Et alors, quand je dis le sexe dans la nature, je parle pas de ce que vous pourriez faire avec des partenaires à l'extérieur en vous promenant dans la forêt, évidemment.
T'as décidé de ramer pendant tout ton sujet, c'est génial.
Je vous parle évidemment de sexe, du sexe biologique, hein. Voilà, et je vais mettre en PLS plein de personnes en prononçant ces deux mots. Je veux
parler. Tu veux dire que c'est du niveau de bio de collège.
C'est ça. Je veux parler de sexe, mais du coup pas chez des êtres humains. Moi, je veux parler de sexe, donc l'ensemble des caractères qu'on peut lire à différents niveaux d'un individu et qui sont plus ou moins quand même. Beaucoup plus que moins lié à sa capacité à se reproduire. Et je voudrais en parler au niveau du monde vivant. On va parler plutôt d'animaux que de plantes, encore que, on verra bien. Mais aujourd'hui spécifiquement, ça va être que des animaux. Et moi, c'est un truc que j'aime bien parce que c'est un petit peu mon boulot. Enfin, j'ai fait un peu des études dans ce domaine-là, la biologie, voilà. Mm-hmm. Ça me permet de pointer à l'éducation nationale tous les jours. Donc, c'est pas mal. Mais surtout, je me souviens que justement, ce sujet-là, en cours, c'était quand même un des sujets qui était parmi les plus intéressants. Et que souvent, on avait des profs qui nous racontaient des anecdotes assez terribles sur des bestioles. Alors, j'ai deux petites anecdotes à caler avant le sujet principal. J'avais déjà envie de parler d'une bestiole que j'aime beaucoup, qui est la bonélie. Alors la bonélie, ça ressemble à rien, c'est un truc qui ressemble à une éponge marine, donc vous imaginez une espèce de sphère verte spongieuse avec une partie un peu allongée sur le dessus, voilà, ça fait quelques centimètres, hein, c'est pas bien grand. Donc c'est pas le truc que vous auriez envie de prendre dans vos bras en principe, c'est pas hyper mignon. Et la bonélie, elle se caractérise par un dimorphisme sexuel assez extrême. C'est-à-dire que les individus, donc il y a des mâles et des femelles pour le coup. On est sur des individus à sexe séparé. Mais la femelle, en gros, c'est ce que j'ai décrit tout à l'heure. Cette espèce de sphère de plusieurs centimètres là, spongieuse. Et le mâle, en fait, le mâle est tout petit. Il fait à peine quelques millimètres. Et le truc très rigolo, c'est que en fait, il va rentrer dans la femelle et il va être intégré littéralement à l'organisme de la femelle, c'est-à-dire que du mâle ne va plus finalement subsister que l'équivalent des testicules qui vont servir à féconder les œufs produits par la femelle de manière à ce qu'elle puisse se reproduire. Donc en gros, pour les personnes misandres qui nous écoutent, on a finalement le mâle résumé à son expression la plus simple et la plus pratique finalement. C'est une paire de couilles intégrées directement au reste de l'organisme.
Genre c'est une greffe quoi.
Yep. Ouais.
Mais c'est exactement ça. Il y a une fusion quasi totale qui se fait au bout de quelques temps.
Mais il n'y a pas un poisson des fonds marins qui fait ça aussi, où genre la femelle elle est genre 10 à 15 fois plus grosse que le mâle, et en fait le mâle juste il vient s'accrocher.
Si.
Et après il reste accroché là.
Si,
et
si,
il fusionne avec elle.
C'est ça. Ça fait partie de ces stratégies, quand c'est des fois compliqué de trouver un partenaire, du coup une fois que tu l'as trouvé, tu ne lâches plus, littéralement.
Mais ouais, que j'avais vu ça sur une meuf qui fait des TikTok sur la biologie marine et qui avait parlé de ce poisson des fonds marins où genre la femelle absorbe le mâle qui vient s'accrocher à elle.
Et
est-ce que ce sont des familles monogames où il peut y avoir plusieurs mâles et...
Non, c'est alors là pour le coup c'est assez monogame, ce qui n'est pas du tout le cas de la deuxième bestiole dont je veux parler. Mm-hmm. Alors qu'on appelle communément le berlingot de mer, et dont le petit nom scientifique que j'aime beaucoup, c'est Crepidula fornicata. Voilà, donc nos scientifiques ont du talent. Et pourquoi est-ce qu'on appelle comme ça? Eh bien, parce que globalement, ce sont des mollusques marins qui vivent en colonie, mais alors qu'ils vivent en colonie en fait en se déposant et en s'accrochant les uns sur les autres. Ce qui fait que c'est une espèce de grosse partouze de... Alors qu'est-ce que tu nous montres de beau ?
J'essaie de montrer parce que je cherche ce que tu nous décris en même temps.
Alors,
j'ai tapé berlingot de mer et du coup je suis en train de voir juste des petites coquilles qui sont.
Les coquilles sont en fait posées les unes sur les autres et alors, ce qui est très intéressant là c'est que justement on a affaire à un animal hermaphrodite. Mm-hmm. Donc le terme là est utilisé dans le bon sens du terme, c'est-à-dire pour décrire des êtres vivants chez lesquels on va avoir la présence des deux sexes, soit en même temps, soit à des moments différents de la vie, contrairement à des espèces comme la nôtre, où pour le coup, on est une espèce d'individu à sexe dit séparé. Mmh. Voilà. En l'occurrence, donc là, chez la crépidule, ce qui est très drôle, c'est que la sexuation va se faire en fonction de où on se trouve dans la pile de coquillages. C'est-à-dire que plus tu es en haut, tu as les mâles. À l'étage intermédiaire, tu as des mâles en cours de féminisation. Et tout en dessous, tu as les femelles.
Le spectre du genre, on l'a trouvé là.
Donc, j'étais si mauvais en SVT et je suis dégoûté de pas avoir su ça quand j'étais au collège. En fait, c'est vraiment un enseignement fondamental.
Mais alors, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est des trucs souvent que tu n'abordes pas au collège parce que t'as pas le temps, parce que le programme, parce que si, parce que ça. Alors, t'as toujours des. Enfin, moi, j'aime bien placer des petites anecdotes parce que c'est ça finalement qui permet de tasser le reste et de faire en sorte que les élèves, des fois, ils se souviennent de trucs. C'est ah oui, tiens, mais c'est vrai, elle avait dit cette histoire et tout. Mais c'est plus des trucs que j'ai appris à la fac, ça, en fait. Et d'ailleurs, tu trouves ça très intéressant. J'avais un prof qui nous faisait un cours sur ce sujet. Et ben, il arrivait quand même à nous faire dormir. Il avait un ton monocorde. Il parlait... Enfin, c'était... je veux dire, une fois, il a essayé une blague... Et personne n'a compris que c'était une blague, alors que sur le fond, elle était drôle. Mais en fait, la manière dont il parlait, on n'avait même pas compris. C'était même pas suffisamment ponctué pour te dire « Attends, là, il est en train de raconter autre chose que son cours. » Et pourtant, il parlait de reproduction, de sexualité, de trucs, mais calme, plat.
Après, genre, à mon avis, le pourcentage de personnes pas très neurotypiques dans ce genre d'institution doit être assez élevé. Donc, peut-être qu'en fait... il n'avait pas appris à faire des intonations.
Probable.
C'est vrai que maintenant que tu me le dis, je pourrais relire certains profs avec d'autres grilles de lecture. Et donc tout ça, c'était des petits amuse-bouches pour venir au sujet du jour, qui est un animal qu'on aime beaucoup parce que c'est un animal qu'on voit dans le Roi Lion. Je veux parler des hyènes.
C'est pas comme ça qu'on présente les hyènes d'habitude.
Alors voilà.
Parce que dans le Roi Lion, on les aime pas beaucoup, mais oui.
Pas de yen shaming, s'il vous plaît. C'est pas parce qu'on leur a donné le mauvais rôle dans un film qu'il faut tout de suite les regarder de travers. Moi
je trouve qu'elles forment un trio assez mignon en fait, parce qu'elles ont l'air. Ce sont les seules yens qui sont individualisées dans le Roi Lion. Les autres sont vraiment anonymes. C'est la masse de soldats. Et ces trois-là semblent être dans une enfin, dans une sorte de trio amoureux, tout le temps fourré ensemble, à manger ensemble, etc. À avoir une posture bon, un peu bully, mais un peu paternaliste, affectueuse avec l'idiot de la bande. Mais en même temps, à prendre soin de ce personnage-là. Il y a un truc presque familial. Pardon, tu peux reprendre.
non mais c'est. Je te remercie de prendre la défense de cet animal mal aimé. Tu rentres dans une catégorie d'individus très sélects avec Bernie Noël du film du même titre, qui adore les hyènes aussi.
Oui.
Désolé pour la mauvaise ref. la ref cringe. Je voulais parler des hyènes parce que et nos amis les furies le savent très bien. Il se trouve que chez les hyènes, eh bien, les femelles ont un clitoris hypertrophié qui est plus grand que le pénis des mâles, qui est érectile. Accessoirement, les femelles ont un comportement dominant, donc un gros comportement de bully sur les mâles. C'est elles qui mènent la danse. Et donc, au départ, jusque dans les années 50, en fait, on pensait que c'était un animal, c'était une espèce hermaphrodite, puisque c'était très très compliqué de distinguer les mâles des femelles. Et donc, en travaillant un petit peu plus précisément, il s'est avéré que non. Et ce qui est très intéressant, c'est que, donc, comme je disais, hein, le clitoris en question, finalement, contient un urètre aussi, donc permet d'uriner. Donc, fait très très fortement penser à un pénis. Mais, et c'est là que ça devient encore un peu plus mind-blowing, c'est par le même canal que lorsqu'il y a mise bas, les petits vont sortir. Donc, voilà, on rentre dans une autre catégorie de kink à base d'urètre. C'est le même canal qui va permettre aux petits de sortir, et c'est le même canal qui permet la reproduction également. Donc, autant vous dire que quand il y a un accouplement chez les hyènes, c'est assez compliqué, parce qu'il va falloir que le mâle réussisse à pénétrer un conduit qui, au départ, est une... Enfin, voilà, c'est un urètre, alors un peu dilatable, certes, mais un urètre quand même. Donc, la position n'est pas du tout celle qu'on va retrouver dans l'ensemble du monde animal quadrupède, et c'est pas évident de réussir à obtenir un accouplement correct, de la même manière que la mise bas se passe pas toujours bien, puisque c'est un canal qui est vraiment hyper étroit, quoi. Ça va être très très compliqué pour les petites hyènes de sortir.
Est-ce que ça implique que finalement ça veut dire cet accouplement il peut pas se faire sans l'accord explicite des femelles?
C'est ça, clairement, vu la position, ça peut pas se faire, et de toute façon, même au niveau du comportement, en fait, c'est pas possible. Parce que là, clairement, ce sont les femelles qui sont dominantes. Le truc que j'ai trouvé super intéressant en creusant un peu ce sujet, parce que du coup, je m'étais dit, bon, on va aller chercher des infos, c'est que finalement, aujourd'hui, on sait toujours pas expliquer le développement des organes génitaux chez la hyène femelle. C'est-à-dire que on connaît un modèle assez général chez les mammifères qui va être lié aux productions ou à l'absence de production de certaines hormones au moment, en gros, de la vie embryonnaire, de la vie fœtale. Et ça marche pour quasiment tous les mammifères. Et le problème, c'est qu'en fait, chez la hyène, on ne sait pas. C'est-à-dire que il y a eu des expériences qui ont été faites in utero où on a essayé de bloquer justement d'utiliser des anti-androgènes pour bloquer les hormones masculinisantes, donc type testostérone, les précurseurs de la testostérone, la dihydrotestostérone, bref, toute cette famille-là. Et finalement, ça change assez peu de choses. Donc, ça ne se joue pas à ce niveau-là. Et aujourd'hui, il n'y a pas de réponse scientifique claire sur le développement de l'appareil génital des hyènes femelles par rapport à l'appareil génital des hyènes mâles. On n'arrive pas à distinguer ce qui les sépare vraiment. Il y a une vraie question du point de vue évolutif aussi, c'est-à-dire que, comme je disais tout à l'heure, ça complique l'accouplement, ça complique la mise bas, et du coup, les personnes qui travaillent un petit peu, qui se posent des questions au niveau de l'avantage évolutif sont un peu embêtées parce que c'est assez complexe. Alors, il y a une théorie qui serait que du coup ça permet ce qu'on appelle la sélection spermatique, c'est-à-dire que ça va permettre de ne laisser passer que certains types de sperme et pas d'autres, parce que il y a ce canal très long. Voilà, ça c'était pour des explications un petit peu compliquées. Mais il n'y a aucune certitude là-dessus, et je trouve ça fascinant. Je suis allée chercher une thèse, donc j'ai en creusant quand même les internets pour préparer ce sujet, et il y a une nana qui a fait une thèse sur la hyène, donc thèse d'école vétérinaire, et dedans elle pose toutes les hypothèses qui existent et ça reste juste des hypothèses en fait, ou des hypothèses qui ont été testées et au final qui sont pas solides quoi. On se dit bah non, c'est pas ça. On voit bien que alors il y a des effets quand même quand on bloque un peu les hormones mâles au niveau in utero, il y a des petites altérations, mais ça ne suffit pas à expliquer la mise en place de ce phénotype-là. Là où, justement, c'est des choses qui ont été étudiées chez d'autres mammifères, une présence de... une production un peu trop élevée d'hormones mâles qui aurait lieu sur des fœtus qui seraient de sexe génétique entre guillemets ou chromosomique femelle, et ben ça a tendance à amener justement un développement de ce qui devrait donner le clitoris de manière beaucoup plus intense, une fusion de ce qui devrait donner les lèvres d'une vulve, donc qui va ressembler plus à un scrotum. Voilà, ça on sait que ça existe chez plein chez plein d'autres mammifères dont l'être humain, oui. Mais chez la hyène, bah, c'est pas comme ça qu'on arrive à expliquer le truc.
Est-ce que dans la thèse, il est... est-ce que la recherche a été faite du côté comportemental plutôt que d'un côté purement chimique? Parce que le fait que les hyènes puissent s'apporter du plaisir entre elles pourrait aussi favoriser la reproduction par ailleurs, et que du coup, une hyène heureuse se reproduit plus facilement et il n'y aura pas de... Que la sélection naturelle, elle a été faite sur le comportement et pas juste sur la chimie.
Est-ce que tu essaierais de faire la promotion du lesbianisme par hasard?
Alors oui, mais indirectement en fait, parce que j'avais lu aussi un truc, alors c'est une thèse qui parlait du fait que chez les humains, en fait, la taille du pénis est plus grande que proportionnellement que chez beaucoup d'autres mammifères, et que la position du pénis au moment de l'éjaculation fait que la sélection naturelle a pu privilégier les pénis plus longs par rapport à un pénis plus court qu'aurait laissé des gamètes juste à l'entrée du vagin. Et du coup, ça c'est plutôt comportemental que chimique, par exemple.
Donc, il n'y a pas ces hypothèses-là. En tout cas, je n'ai pas trouvé ces hypothèses-là. Ouais. Ça ne veut pas dire qu'elles sont pas travaillées, mais j'ai trouvé ça assez intéressant de voir qu'en 2023, on n'a toujours pas la réponse.
Ouais.
Mais en plus, je pense que c'est deux trucs différents dont vous parlez, parce que du coup, toi, tu parles de comment on s'en est arrivé en termes de sélection naturelle vers ce truc-là, oui. Alors que ce que Mike dit, c'est que même en modifiant in utero l'apport en hormones ou quoi, c'est ça? Attends.
Oui, mais en fait, le truc, c'est que justement, les hormones, c'est une chose, oui. C'est une substance qui apporte, oui, un message qui va être reçu par des cellules qui possèdent les récepteurs pour les recevoir. Oui. Il faut savoir que le développement des organes, il est lié à plein d'autres facteurs et notamment à l'expression de certains gènes, oui, qu'on appelle les gènes homéotiques ou les gènes du développement. Et ce qui va être hyper important là-dessus, c'est ce gène, quand va-t-il s'exprimer au cours du développement embryonnaire? Où va-t-il s'exprimer? Dans quelle quantité il va s'exprimer? Et souvent, c'est, en fait, ça ne va pas être un seul gène. Donc, quand il s'exprime, une protéine est produite et cette protéine amène certaines réactions au niveau des cellules. Et souvent, en fait, ce qu'on va avoir, c'est des gradients de concentration de ces protéines au niveau des tissus embryonnaires. Et ce n'est pas juste une protéine qui est importante. C'est souvent un ensemble dans certaines zones qui vont trigger que certaines cellules deviennent de certains types et que d'autres évoluent vers d'autres types. Et donc, c'est pour ça que là, ce qui est intéressant, justement, c'est d'être arrivé sur... d'avoir éliminé l'hypothèse hormonale. C'est-à-dire qu'on sait que, oui, chez plein d'autres mammifères, c'est un des gros... c'est le principal switch au niveau de comment tu vas... Alors, j'ai utilisé ces termes en mettant des guillemets autour, mais masculiniser ou féminiser un appareil génital. Hein. Oui. Tendez bien des guillemets autour. Mais si je prends des termes de la littérature scientifique, c'est ceux-là qui sont employés. Et là, en fait, chez la hyène, c'est pas... Voilà, c'est... On voit, une... on voit que à la marge, ça a un petit effet, mais c'est un effet qui n'explique pas les différences morphologiques.
C'est pour prendre
en particulier.
C'est pour essayer de. Je vais essayer de résumer pour pouvoir passer au sujet suivant aussi, qui est que on a exclu l'hypothèse des hormones qui aurait été l'équivalent de une modification de en logiciel, mais que cette forme de cette forme d'organes génitaux est probablement codée en dur dans les gènes de manière autre en fait, et pas de manière ne tient pas compte du développement, mais directement la forme est coder directement.
C'est du hardware, c'est pas du software.
Exactement. Il fallait qu'il me fallait cette traduction-là.
Incroyable. J'ai pas de transition.
tu veux nous parler de d'autres lesbiennes?
Ouais, bon, si, je peux faire une tentative. Non, mais parce que du coup, ça explique ce que tu nous as dit, Mickey, ça explique pourquoi, genre, il y a certaines personnes non-binaires afabes et personnes transmasques qui adorent les hyènes. Genre, c'est un truc que j'ai déjà vu, les gens qui kiffent ça, qui kiffent les hyènes. Ouais. Je me demande si... Et non, j'ai déjà vu genre du merch trans avec des hyènes dessus aussi. Donc, genre,
c'est une glorification de matriarcat.
C'est un peu hardcore en termes de matriarcat. Genre, tu sais, c'est vraiment. Tu sais, c'est genre, je pense que si tu penses le matriarcat, genre, comme l'inverse du. Comme le patriarcat, mais par des femmes, c'est ça, tu vois. C'est un peu genre. Mais alors que du coup. Quand tu parles de matriarcat, généralement tu parles d'une autre forme de société, un peu comme genre le female gaze, c'est pas genre juste le male gaze vu par des meufs. Tu vois. Bref.
Bouh, mais, c'est du sexisme inversé, bouh. Ouais.
Non mais les hyènes, non, c'est hardcore, hein, ça je suis complètement
d'accord. C'est hardcore, d'accord.
Elles font pas semblant de dominer les mâles.
Bref.
Et donc, la transition de Louis.
On va y arriver, promis. Non, parce que du coup, ma transition, ça allait être que du coup, je vais parler d'une personne du coup queer, d'une meuf queer pour le coup, qui a fait pas mal de drag dans ses clips. Je pourrais penser que je parle de Dorian Electra, mais non, parce que Dorian Electra est une personne non binaire, donc ce n'est pas elle, mais c'est Rina Sawayama, qui est un peu dans le même mouvement que Dorian Electra d'ailleurs et Kim Petras, mais du coup a priori Rina n'est pas trans, qui est du coup le mouvement de l'hyperpop, donc qui est un peu ce mouvement de genre prendre les codes de la pop et les exagérer ou les détourner. Et il y a une chanson de Rina Sawayama qui s'appelle « Comme des garçons », entre parenthèses, « Like the boys », parce qu'il fallait mettre la traduction. Et je vais juste vous laisser regarder, enfin, vous, du coup, écouter pour les auditeuristes le son.
On et, mettra un lien vers la vidéo aussi, pour que vous puissiez aller voir en même temps.
Ouais. Parce que y a un moment, elle est en drag, c'est du drag queer, mais elle est en drag dedans. À tout le monde.
J'aime pas trop l'ambiance de créer des nouvelles addictions comme ça, Louis. C'est pas très cool.
Je t'enverrai d'autres clips.
Elle est si cool.
Elle est incroyable. Je l'aime. Je l'aime de tout
Je la
l'amour du
connaissais
monde.
que en modèle, genre je l'avais vue en bord de défilé et tout ça. Et elle
Ce
est
qui est très.
exceptionnellement belle et genre magnétique et tout ce que tu veux, mais là c'est fini pour moi, je pense.
Parce que ce qui est hyper
Je
intéressant,
l'amour
c'est
tout
que ce,
seul.
du coup, ce clip a 3 ans. Et du coup, c'est avant qu'elle fasse vraiment une carrière de modèle connue et qu'elle soit hyper
Ok.
connue. Et du coup, elle se moque grave de ça aussi dans le clip et dans la chanson que je vais vous décortiquer pour vous, chers auditeurs, tout de suite. En gros, le premier couplet, c'est sur. Le fait que genre elle se réveille et que genre elle a besoin de se convaincre qu'elle va bien mais du coup il y a quelques et alors cette chanson est pas tant trance que c'est du drag en vrai parce que même si le premier couplet genre tu peux un peu l'interpréter comme ah j'ai besoin de genre enlever mes peurs d'être perçue en tant que personne queer dans l'espace public et il y a le c'est juste un autre jour à faire semblant qui est du coup pour qui pourrait être un peu en mode à performer des attentes de genre. Mais où du coup tout le truc c'est genre vous connaissez la phrase de ayez le dixième de la confiance d'un mec cis-het blanc qui rentre dans une pièce. Ben, en fait cette chanson c'est ça dit en chanson. Et du coup tout le truc c'est sur bah vas-y j'en ai rien à faire, je vais avoir la confiance. Qu'on m'a jamais laissé en tant que personne queer expatriée japonaise. Et du coup, c'est bah, comme les garçons, je vais avoir la confiance. Et après. Et du coup, après, c'est juste genre, excusez mon ego, je peux pas être passé inaperçu. Et ce qui est marrant, c'est qu'elle mentionne des trucs qui sont un peu des trucs très masculins, des codes de drag king. Elle dit qu'à chaque fois qu'on la voit, c'est comme si on gagnait le gros lot au casino. Et genre, je trouve ça hyper genre masculin comme référence, genre le casino. Je vais te mettre à terre comme au judo. Make it rain, genre faire pleuvoir l'argent. Enfin, c'est des trucs que je trouve très stéréotypés masculins qui se retrouvent dans des codes du drag king de vouloir genre. Reprendre ces trucs-là hyper exagérés. Et le dernier couplet est vraiment sur. Genre, je suis incroyable, genre vraiment. Toutes les marques Miu Miu, Prada, Mugler, genre, vous auriez tellement mieux fait de m'avoir en égérie et ça améliorerait grandement votre vision artistique. Du coup, ça parle de représentation. Ce qui est génial, c'est que maintenant, elle a la représentation parce qu'elle a fait sa place là-dedans. Et du coup, cette chanson, elle est sortie en 2020. Alors, le clip 2020, la musique 2019, si je dis pas de bêtises, sur son premier album qui porte son nom de famille. Fun fact sur son nom de famille, c'est un truc qu'elle avait abandonné au début parce que ça lui posait un desservice, genre parce que les gens avaient du mal à le prononcer, et en fait après elle a dit fuck it, non je le garde. Donc comme je disais, c'est une expatriée japonaise qui a aussi la double nationalité britannique, qui est ouvertement pansexuelle, qui a fait cet incroyable clip donc. Dedans, il y a aussi un truc qui s'appelle XS, qui est genre pareil, un truc qui se moque un peu de genre des apparences et des marques et des trucs de marque qui est assez incroyable. Et aussi dedans, il y a Bad Friend, qui pour le coup est une chanson qui dans les paroles est moins engagée politiquement, on va dire, mais où elle joue un homme dans le clip. Tout le clip est un hommage au cinéma japonais. Et il est magnifique. Donc je vous mettrai pareil les liens, les notes. Qui sont très très cool. Et voilà, et donc j'ai pas tant de choses que ça à dire sur la chanson d'elle-même, mais j'ai beaucoup à dire sur Rina, parce qu'elle est vraiment incroyable. Et notamment dans son dernier album qui s'appelle This Hell, qui est vraiment le truc en mode. Tout le truc, c'est de dire oui, je vais aller en enfer, et alors? Genre, qu'est-ce que tu veux? Enfin, où dedans, elle a un mariage bi et polyamoureux. Et c'est là où je suis triste que Pau ne soit pas là, parce que Pau l'avait mentionné pendant la réunion que genre c'était la raison pour laquelle elle l'avait mis à votre mariage.
Je suis là aussi, hein. Mais oui, c'est elle qui l'avait choisi. Hein.
Et il y a aussi, je vous recommande aussi, le clip de All the Girls qui est sur son enfance et sur sa relation à son enfance, qui est vraiment incroyable. Ou si vous êtes un peu fan de pop comme moi, et que vous, les influences de Madonna sont grandes dans la musique. Genre. Elle a aussi travaillé sur un album de Lady Gaga. Il faut savoir que sur son dernier album, Lady Gaga a fait un deuxième album qui est juste des remixes avec d'autres personnes de la pop. Notamment de l'hyperpop, donc il y a un remix avec Dorian Electra, et notamment il y a un remix avec Rina dedans, et Lady Gaga l'a décrit comme une visionnaire de la pop expérimentale qui refuse de se conformer aux règles établies. Et genre, je suis I'm a little monster, genre vraiment je suis un Gaga super fan. Et du coup genre le plus gros, je pense que c'est le plus gros flex qu'elle peut faire de sa vie de dire que Lady Gaga a dit ça d'elle, genre vraiment c'est... Voilà. Et sur les infos un peu rigolotes aussi, elle a joué dans le dernier John Wick, que je n'ai toujours pas vu,
Oui.
mais si vous aviez besoin d'une info.
Et les images que j'en ai vues, elle
Voilà.
a l'air aussi genderqueer et voilà, ça vaut le coup d'œil. J'ai pas vu le film non plus, mais j'ai vu des images de son passage.
Elle a pas ouvertement parlé de son rapport au genre, en tout cas pas dans ce que j'ai trouvé. Par contre, elle est ouvertement pansexuelle.
Ah oui, non, je parle pas de l'actrice, je parle de
Ah.
je parle du personnage visuellement dans John
Ah.
Wick.
Voilà. J'ai rien d'autre à dire,
Eh bien
à part que
voilà,
genre aller
Lou
regarder
qui
l'équipe de
amène encore
Rina.
des artistes aussi dans un podcast trans. Pour l'instant.
Pour l'instant, a priori 6.
Ça fait beaucoup quand même, hein?
Oui. Mais non, mais.
Oui, désolé.
Non, alors attends, j'ai parlé de Dorian Electra et Kim Petras quand même. Genre,
Non, non, mais
il y
oui.
a. Il y a Malé qui avait parlé d'une compositrice trans aussi.
Est-ce que ça
Il y a eu.
contrebalance Phil Collins?
Eu deux fois Phil Collins. C'est pas ma faute. Pas ma faute si j'écris des trucs trans, Phil Collins.
Je pense que c'est la sienne et que on découvrira quelque chose plus tard.
Oui.
C'est ça.
On
Ce
n'a pas eu de
serait. Oh
Michel
ouais.
Sardou encore, ça va, on aurait pu atteindre un palier supérieur dans
Alors, laquelle d'entre vous osera décortiquer être une femme au micro d'un podcast trans sous prétexte qu'on pourrait en faire une lecture trans?
C'est toujours
Je pense que ça peut être une
spécialité. Hein.
punition.
Oh là là,
C'est
ouais.
vraiment le truc où tu dirais, bon, ok, t'as
T'as eu
merdé,
un
eh
gage?
bien, en punition, l'épisode prochain, tu t'occupes d'être une femme de Sardou. Et la version 80 et la version 2000, ce qui en a fait une version modernisée.
Mais t'as l'air bien lancé, Nick, je pense que tu devais t'en charger. Hein.
Ouais, je pense
Je
que...
suis
Alors,
sûr.
T'as plus de connaissances que nous déjà.
anecdote. Non, 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 ça, je peux pas, mais anecdote, j'avais un ami que... Alors, de droite.
Donc un ancien
Voilà.
ami.
Non,
Ah,
bah
t'as dit
alors, pas un
j'avais un
ancien ami,
ami.
parce que... Oui, il est mort, pour le coup, donc voilà, paix à son âme.
Mes excuses.
Et c'est voilà, c'était ma caution de droite en fait, parce que dans mon entourage, c'est la seule personne qui était, enfin, il était de droite, il était macroniste, donc il était de droite.
Ouais. Donc les gens de droite autour de Mickey, faites
Voilà.
attention pour qui vous votez parce que vous voyez comment je suis une fois.
Mais c'est quelqu'un que j'aimais énormément, soit dit en passant. Et
Arrête de
par
parler
contre,
de
donc
Léna.
il avait, il était au taquet sur Sardou, mais c'était insupportable parce que du coup, il adorait Sardou. Enfin, voilà. Et donc,
j'imagine bah, Mickey qui dit « Ouais, je l'aimais beaucoup, j'ai versé une larme au moment de l'ossir.
» Il faut arrêter les blagues sur les gens qui viennent de mourir, ça, c'est pas possible.
Pardon, ça fait long de... ça va? C'est trop tôt? Je vous ai déjà dit que trop tôt, ça doit être sur ma... ce sera les mots sur ma tombe. Hein,
oui, 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 tout soon, c'est ce que tu as déjà dit.
J'ai pété le... Je suis désolée, voilà. Pardon, tu peux...
Non, mais c'est... Comment dire? Est-ce que de toute façon, il y a un moment où c'est le... C'est le moment, je sais pas. Mais toujours est-il que voilà, pour le coup, j'ai une grande connaissance de Sardou, grâce ou plutôt à cause de cette personne.
J'ose pas enchaîner, moi.
elle a sa tête en mode. Pour le coup, pas.
Il faut faire l'intro maintenant, Jonah. Allez, c'est toi, c'est ton moment.
Est-ce que la. Comment dire? Est-ce que la famille nous écoute? Non, très bien, on continue. Donc, merci beaucoup de nous avoir écoutés pour cet épisode 23. On s'était dit que peut-être on ferait un petit tour de news et de recommandations très rapides pour finir l'épisode. Et j'ai deux news très courtes. Il y a une recommandation sur un artiste musical qui s'appelle Max Fractal. Max Fractal a fait son coming out trans dans sa newsletter il y a quelques jours auprès de ses fans, dont je suis, parce que jusque-là, il faisait partie d'un groupe qui s'appelle Vermilion Lies avec sa sœur et il et elles avaient fait ensuite une carrière solo. Tous les deux étaient extrêmement queer et sa sœur, qui est encore genrée au féminin, vire de plus en plus butch dans ses clips et Max Fractal a sauté le pas. Donc voilà, c'est super cool, c'est de la musique qui est très fun et joyeuse, et voilà. Et puis l'autre recommandation à l'autre extrémité du spectre de la joie, c'est Jules Marot qui vient de sortir une bande dessinée qui s'appelle Hacker la peau. Je pense qu'il y aurait largement de quoi en faire un sujet complet dans un épisode prochain si quelqu'un veut le faire. Co-écrit ouais. Avec Sabrina Calvo, l'album est fabuleux. Il y a, c'est à la fois une représentation d'un futur très proche de la politique française et une représentation de ce que c'est que d'être trans, que vous soyez mec trans, femme trans, non binaire, dans les franges gauchistes de nos amis, qui fait peur en fait, qui fait peur et qui sont extrêmement réalistes. Et j'étais physiquement mal en finissant l'album, et pour moi c'est la marque d'une œuvre qui a été réussie et que j'ai envie de recommander à tout le monde. Lisez-le et lisez-le pas seul. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres recommandations?
Ouais, j'en ai une. Un livre qui s'appelle Le bleu au ventre, qui est, je vais reprendre le nom de l'autrice sous mes yeux, c'est Leila Frégé-Knepper, qui a été donc publié chez mon éditeur pour le coup, mais je ne le recommande pas pour ça, chez Double Ponctuation. C'est un petit livre avec donc une succession de textes. J'ai pas envie d'en dire trop. Moi, je lis assez peu souvent ce type d'ouvrage et il m'a mis une baffe. Vraiment là pareil, enfin c'était très physique ce que j'ai ressenti en le lisant, parce que il parle de ce qu'une femme peut vivre au cours de sa vie, de sa vie relationnelle, et enfin et c'est très connecté à des ressentis corporels. Et en l'occurrence, moi c'est vrai que je l'ai lu, mon éditeur me l'a envoyé gentiment comme il m'envoie des fois des livres en se disant tiens, ça va peut-être t'intéresser. Non, ça m'a pas intéressé, ça m'a collé deux claques dans la tête. Donc je le recommande vraiment très chaudement, et peut-être qu'un jour j'en ferai un sujet pour le coup. Mais je l'ai pas digéré encore, ouais. Parce que la lecture est très récente. Donc je le recommande, il est petit, se lit vite, et il est vraiment très 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 touchant.
Ok. Charlie, j'ai l'impression que tu opinais très fort sur Akelapo. Est-ce que tu l'as lu aussi?
Je l'ai pas lu, mais je l'ai vu passer. Il fait partie d'une liste que j'ai de futures lectures. Non, moi en ce moment, je suis en train de lire le livre de Panayotis Pasco, La prochaine fois que tu mordras la poussière. Et du coup, mais je pense, comme vous, qui a un sujet entier à faire, en ce moment, je suis un peu obsédé par Panayotis. Bonjour Pana, si tu nous écoutes, hein, vraiment, je suis fan de toi, bravo pour ton coming out, pour tout ce que tu fais, c'est super. Et il n'écoutera jamais, je ne prends aucun risque en faisant ce message. Et du coup, voilà, mais ça parle de difficultés. À faire son coming out, ça parle de dépression, ça parle de relations familiales et tout, et c'est hyper fort. Et du coup, je suis un peu obsessed actuellement.
Akelapo se passe à Lyon et je suppose qu'il doit y avoir une saveur particulière quand on connaît bien la ville, parce que
Ok.
ça se passe beaucoup d'un quartier à l'autre, à suivre des cours d'eau, etc.
Ok.
Mon chéri l'a
Ça.
acheté là tout récemment, donc j'aurai l'occasion de le lire aussi.
Ça m'a fait penser à plein de choses, tout ce que vous avez dit là. J'avais lu les deux bouquins de Thomas Page McBee dont j'avais déjà parlé ici, donc bon, je vais pas les re-recommander, qui sont un peu sur le même sujet que ceux dont tu parles, Charlie. Et sinon, moi en ce moment, je suis en train de lire, enfin en train de lire Autobiographie d'une transsexuelle avec des vampires. Ce qui est beaucoup plus fun à lire parce que je sors d'un gros bouquin sur faire des jeux vidéo queer et qu'est-ce que c'est que d'être une développeuse qui fait des jeux vidéo queer. Donc là, je lis un truc un peu léger. Un peu fun, c'est très fun. Si vous avez envie d'une reco un peu moins lourde que celle qu'on a fait
Oui, ça
autour de
sera
la table.
bienvenu, je pense.
C'est Lizzie Krodagger, c'est ça? Autobiographie avec des vampires, c'est Lizzie Krodagger.
Oui.
Oui, c'est ça.
D'accord.
ben on va mettre toutes les références vers ces livres, par exemple sur Place des Libraires ou un endroit comme ça. Une dernière référence pour me mettre une pression, parce que j'aime bien ça. On vient d'avoir l'idée de lancer un énième podcast au sein du collectif nre.fm. Ça s'appelle Transtextuel. Et ça va être des lectures de textes trans par des personnes trans et rien d'autre. Parce que c'est clairement une de mes passions, un truc qui intéresse aussi beaucoup Mike, qui intéresse aussi beaucoup Anne du podcast Polycule, entre autres. Et donc, on va essayer de partager ça. Juste des textes qu'on aime bien, pas de fioritures autour, pas de présentation, pas de contexte, juste des textes et nos jolies voix. Transtextuels, on mettra les liens aussi. Est-ce qu'on a fini?
Oui.
Hey, on a fini!
On dirait qu'on a fini.
Wow, on est complètement
Bravo.
dans les temps, on a réussi à faire trois sujets. Je crois que ça fait longtemps que c'était pas arrivé. Et puis voilà, bah, mettez-nous des likes, des pouces et 5 étoiles partout où c'est possible sur les plateformes sur lesquelles vous nous écoutez. Est-ce qu'on peut vous donner des devoirs avant la sortie de l'épisode 24? Peut-être vous pouvez recommander un podcast trans à un ami. Faire en sorte que quelqu'un d'autre écoute et que vous puissiez en parler entre vous. Je crois que ces discussions-là, elles sont vraiment chouettes si elles continuent après chez vous. Et puis nous, ça nous permettra d'avoir plus de monde aussi, c'est un peu le but. Et voilà, on se dit au revoir.
Au revoir.
Salut.
Au revoir, bisous.
Et longue vie et prospérité.
Trop bien. Enfin, on n'est plus dans l'épisode, hein, on est
Oui,
d'accord.
les micros ont été coupés, c'est pour ça que je le dis. Si, genre...
Bah alors attends, pas encore,
Ah,
celui-là,
alors
voilà.
justement, c'est vrai.